signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ne crois pas impossible ce qui n'est qu'invraisemblable, dit le personnage d'Isabella qui témoigne de son harcèlement sexuel dans la pièce de Shakespeare « Mesure pour mesure ». Mark Twain, pour sa part, dit que la seule différence entre fiction et réalité, c'est que la fiction a besoin d'être crédible. Pour être convaincante, la fiction doit s'en tenir au vraisemblable et la réalité non. C'est pourquoi la réalité est souvent plus étrange que la fiction. Entre harcèlement en série dans les journaux de gauche, montée des populismes et de l'antisémitisme et conspirationnisme, les temps que nous traversons donnent certainement raison, plus que jamais, à Shakespeare et Mark Twain. Plus le monde autour de nous devient vrai, et moins il est vraisemblable, et plus nous nous demandons où nous vivons. Un sentiment d'étrangeté nous saisit, comme si nous vivions en exil dans notre propre pays. Mais comment vivent à côté de nous les vrais exilés, ceux qui ont tout quitté pour venir ici et ont échoué à Calais ou Paris ou ailleurs dans l'espoir d'y trouver de l'ordre? Et comment reçoit-on leurs invraisemblances et leurs sentiments d'étrangeté? Dans « Croire à l'incroyable », un essai témoignage sorti chez Gallimard, le sociologue Tsmaïn Lacher raconte une expérience de cet ordre. Il raconte comment il est devenu juge à la Cour nationale du droit d'asile et comment il s'est retrouvé chargé d'évaluer la véracité des récits tous plus fous les uns que les autres et tous atroces, sur lesquels la Cour devait baser sa décision d'accorder ou non l'asile politique. À travers une procédure juridique rationnelle, Tsmaïn Lacher a dû évaluer des situations extrêmes sans posséder aucun élément objectif sur ce qu'on lui racontait et de son degré de crédulité dépendait l'avenir de ceux qu'il avait devant lui. Dilemme moral, dilemme narratif et dilemme logique. Quand les furies du désordre frappent à la porte, jusqu'à quel point doit-on choisir d'y croire ? Pour y réfléchir aujourd'hui, Alexis Nuss avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de littérature générale et comparée à l'Université d'Aix-Marseille. Directeur du groupe Transposition au Centre interdisciplinaire d'études des littératures d'Aix-Marseille, où tenez la chaire Exil et Migration au Collège d'études mondiales, c'est ça. Vous organisez annuellement depuis 2017, en partenariat avec le Musée de l'Histoire de l'Immigration, le Salon des littératures de l'exil et des migrations. Vous êtes aussi à l'initiative d'une liste aux prochaines européennes qui s'appelle Liste Europe Migrants Solidaires. Et vous avez publié plusieurs livres, dont Plaidoyer pour un monde métis, un livre sur Paul Celan, Les lieux d'un déplacement et la condition de l'exilé, Pensée des migrations contemporaines. Tsmaïn Lacher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg. Vous êtes l'auteur de beaucoup d'ouvrages, en fait, parmi lesquels « Peuple des clandestins »,« Femmes invisibles, leurs mots contre la violence »,« Sacré, sacrilège et liberté publique dans le monde arabe ». Vous couvrez beaucoup de sujets qui se croisent, plus ou moins. Mais
c'est pour ne pas mourir.
Voilà. Et là, vous nous donnez « Croire à l'incroyable », qui est à mi-chemin entre l'étude sociologique et le témoignage personnel.
Oui, c'est un sociologue qui se retrouve à la Cour nationale du droit d'asile, enfin, anciennement commission des recours des réfugiés.
Oui.
Et c'est une expérience biographique tout à fait inédite et il m'était absolument impossible de ne pas la raconter. Ne serait-ce que pour y voir moi-même un tout petit peu plus clair sur ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait et ce que je n'ai pas pu faire.
Vous n'aviez pas de formation particulière pour ça, c'est venu...
Non, j'ai longtemps travaillé sur les questions migratoires et de mon point de vue, il est absolument impossible de travailler sur les questions migratoires sans toucher au droit, sans avoir une compétence minimum en droit, car l'étranger est traversé de part en part par le droit et le discours juridique. Donc c'est impossible de ne pas regarder de près ce que dit le droit sur cette catégorie de population et ce que fait le droit sur cette catégorie de population et en retour, ce que font ces populations au droit, et au droit national en particulier.
Alors, c'est arrivé en mai 99, hein, c'est un coup de fil d'un ami qui vous propose de siéger au sein de l'OFPRA, de l'Office français de protection des réfugiés.
Commission des recours des réfugiés.
La commission des recours des réfugiés, comme l'un des trois juges à la commission des recours des réfugiés, qui sera chargé de statuer sur les demandes d'asile politique, celles qui ont été refusées par la Cour nationale. En fait, c'est comme une cour d'appel, en réalité.
Alors, oui, pour le dire très très brièvement, la première demande examinée sur le fond est faite par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Ça, c'est la première instance. C'est un établissement administratif, hein. Ce n'est pas une cour. À l'intérieur, ce sont des officiers de protection. Et puis, si vous êtes accepté, alors vous avez le statut de réfugié. Si vous n'êtes pas accepté, vous avez le droit, la possibilité juridique de faire un recours. Et cette fois-ci, vous le faites à la Cour nationale du droit d'asile, anciennement Commission des recours des réfugiés.
Alors vous écrivez, c'est donc en 99, vous écrivez « Nous étions quelques 10 ans après la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'URSS. Dès 90, les flux migratoires progressèrent rapidement dans tous les pays de l'OCDE. » Et un des facteurs qui va compter dans votre décision d'accepter le poste, j'imagine que vous avez hésité quand même.
Oui, j'ai hésité, bien sûr, parce que ce n'est pas faire de la sociologie, hein, aller à la commission des recours des réfugiés.
Vous avez décidé de la vie des gens, en réalité.
Oui, absolument. Bien évidemment, j'ai hésité, mais profondément, ça correspondait à ce que je suis, c'est-à-dire que à cet endroit précis et de cette manière, ça correspondait, si je puis dire, à mon ethos de classe. Mmh. Et j'ai pensé, et je continue à penser, que ce que j'ai fait là était à la fois socialement, politiquement positif. Et que, au fond, à ma manière, je me suis engagé auprès de ceux qui étaient probablement les plus vulnérables.
Alors, c'est dans les années 90, donc vous voyez se multiplier les conflits en Europe, dans les Balkans, au Rwanda et ailleurs. C'est une des choses qui vous convainc d'accepter le poste. Mais les années 90, c'est aussi une époque qui est complètement différente de la nôtre. Il n'y a pas le 11 septembre, il n'y a pas le terrorisme. L'Europe est encore très certaine d'elle-même, plus que jamais même dans les années 90, et voit arriver des gens vraiment d'ailleurs qui vivent des choses incroyables.
Absolument. C'est vraiment un moment transitoire.
Oui.
Nous sommes sur le point de passer d'une époque à une autre, en particulier dans le domaine de ce que l'on appelle la protection internationale et de la protection à des demandeurs d'asile qui pourront devenir ou ne pourront pas devenir d'ailleurs des réfugiés. C'est la fin d'une sorte d'amour des institutions de l'asile à l'égard de certains demandeurs d'asile, en particulier les demandeurs d'asile venant d'Amérique latine et les demandeurs d'asile venant de l'Europe de l'Est. Voilà, c'était des demandeurs d'asile dignes.
Dignes.
Voilà.
Les dissidents.
Et après sont arrivés les demandeurs d'asile un peu moins dignes.
L'Afrique, et d'autres du Proche-Orient.
Absolument. Voilà. Et véritablement, c'est-à-dire sociologiquement, la composition de ces populations avait effectivement changé. Nous n'étions plus en présence des mêmes populations, nous n'étions plus en présence des mêmes motifs d'exil. Et il y avait, avant la chute du mur de Berlin, avant la chute des dictatures latino-américaines, une figure du réfugié noble, d'abord antifasciste, antitotalitaire pour les pays de l'Est.
C'est venu plus tard, parce que les pays de l'Est, c'était déjà un peu limite.
Mais quand même, on regardait déjà du côté des pays de l'Est. Mmh. On regardait en particulier les dissidents des pays de l'Est. Et il a bien fallu que la Commission des recours des réfugiés, d'abord l'OFPRA et la Commission des recours des réfugiés et la Cour nationale du droit d'asile, prennent en compte dans les modalités de travail. Et en particulier, il a fallu réfléchir de nouveau en face de situations historiques tout à fait nouvelles. À ce que c'est qu'une persécution.
Oui, parce que vous rappelez, entre autres choses, que contrairement aux dictatures et aux totalitarismes qui sont clairement identifiés, le fait qu'aucun pays arabe musulman de la région ne possède de droit d'asile, par exemple, que 5 seulement d'entre eux ont signé la Convention de Genève, qui ne respectent pas, par ailleurs, on n'est d'ailleurs toujours pas habitué à ce genre de données. On dit avec une zone où il n'y a pas vraiment de repères.
Oui, mais en fait, quand on regarde de près les pays respectueux de la demande d'asile, qui d'abord ont signé la Convention de Genève, puis ont établi un droit d'asile interne, sont en réalité peu nombreux sur la planète. Mais on peut signer la Convention de Genève, ce qui est le cas de 5 pays arabes, et alors ne pas du tout, mais alors pas du tout respecter la protection, respecter même l'asile. Mmh. Parce que dans ces 5 pays, Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Yémen, ils ont signé la Convention de Genève. Mmh. Alors c'est étonnant, hein, le Yémen qui a signé la Convention de Genève, l'Égypte et les 3 pays du Maghreb. En fait, dans ces pays-là, la seule agence internationale qui fait de l'éligibilité, qui dit celui-là, il a besoin d'une protection internationale, je lui accorde, il est sous ma protection, sous mon mandat, c'est le HCR, et puis d'autres n'auront pas la protection. Eh bien, une fois que le HCR a donné sa protection, il n'est absolument pas dit que l'État dans lequel se trouve le HCR et le demandeur d'asile ne soit pas expulsé. Mmh, moi, j'étais en Tunisie, et le HCR a donné l'asile, c'est-à-dire a mis sous sa protection un certain nombre de subsahariens, et je vous assure que ça n'a pas, on ne l'a pas raconté, hein, j'étais là-bas, ça n'a pas du tout empêché le gouvernement tunisien à l'époque de Ben Ali, de mettre dans des camions entiers des hommes seuls, mais aussi des familles, des mineurs, et les renvoyer du côté du désert libyen. Ouais.
Alors, Alexis Nous, dans ces années-là, vous vous intéressiez déjà aux migrants et aux exilés dans les années 90 ou c'est venu plus tard? Parce que vos livres datent de 2005, enfin, suggérant...
J'étais d'une certaine manière rattrapé par l'actualité. C'est-à-dire, ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur le thème de l'exil en littérature. Et bon, que ce soit, j'ai fait une carrière à l'étranger, au Canada, puis en Grande-Bretagne, avant de revenir en France. Le thème de l'exil me semblait central dans l'histoire de la littérature européenne, avec également des substrats culturels très profonds du côté des monothéismes. Les récits des 3 monothéismes sont des récits d'exil. Mmh. L'exode des Hébreux en Égypte, la Sainte Famille en Égypte dans le Nouveau Testament, et puis bien sûr l'Égypte. Et donc je m'intéressais à cette donnée fondamentale pour lire la littérature occidentale et la lire de manière justement déterritoriale, en voyant que l'exil avait une place importante. Et puis réfléchir sur Ulysse, tout d'un coup les Ulysses, je les voyais autour de moi, je les voyais périr dans la Méditerranée, périr dans le désert du Sahara, et donc je ne pouvais pas ne pas interroger ces Ulysses-là. Et j'ai très vite compris que la question du récit était fondamentale. Si je reprends la généalogie que vous esquissiez, Monsieur Larcher, je pense qu'on est passé d'une période où le droit d'asile était accordé parce qu'il y avait un grand récit qui soutenait ce droit d'asile. Le grand récit, c'était la Russie, c'était l'Empire soviétique, c'était l'Amérique du Sud, les dictatures. Et donc, individuellement, il suffisait de se prévaloir de ce grand récit-là pour recevoir le droit d'asile. Sans oublier la vague précédente, c'est-à-dire ceux qui sont sortis des camps, ceux qui sont sortis des ruines de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y avait des grands récits.
Enfin, ça s'est pas fait tout seul quand même. Hein.
Ça s'est pas fait tout seul, mais les grands récits étaient là qui soutenaient. Mm-hmm. Et puis là, ce que l'on constate aujourd'hui, dans ce que j'appelle l'exil de masse contemporain, c'est que il y a une multitude de petits récits. On ne peut pas inclure ceux qui viennent, les arrivants, les arrivantes, dans un grand récit qui, d'une certaine manière, déterminerait l'octroi du droit d'asile. On est obligé de prendre en compte des petits récits. Et je crois que donc, dans une perspective qui est celle d'un régime narratif, on est vraiment passé d'un droit d'asile qui était lié à des grands récits que l'on connaissait, que l'on maîtrisait, que parfois justement on voulait rejeter, dans le cas par exemple de l'Empire soviétique, justement il suffisait de venir de là pour tout de suite être les bienvenus, à une réalité où le sujet qui vient demander l'asile, on ne sait pas où l'inscrire narrativement. D'où la nécessité pour lui de s'inscrire narrativement. D'où par exemple la nécessité, et ça c'est une spécificité française, de produire un récit au détriment de ses propres traumatismes, et que non seulement ce récit soit écrit dans une cohérence narrative, mais aussi il faut qu'il soit convaincant. Et à chaque fois, c'est un petit récit.
Voilà.
Alors, je crois que ce passage du grand récit au petit récit explique d'une certaine manière ce qu'on appelle le drame migratoire contemporain.
Juste si vous me le permettez une seconde. Moi, j'abonde tout à fait dans votre sens et j'ajouterais deux autres catégories. J'ajouterais la catégorie de la confiance et la catégorie de la défiance. On est passé d'un moment de confiance, en particulier une confiance dans la figure du demandeur d'asile et du réfugié, et le demandeur d'asile et le réfugié à cette époque-là se confondaient. Et au fond, la défiance, elle est arrivée quand est arrivée la suspicion à l'égard de la figure du réfugié.
Oui, parce que je crois que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a un individu. Auparavant, il suffisait d'être chilien ou polonais ou tchèque, et ça suffisait. C'est-à-dire qu'il y avait, encore une fois, ce grand récit
c'est vrai,
là, il y a des individus.
C'est vrai, mais pas systématiquement vrai. Ce que vous dites là, par exemple, c'est pas tout à fait le cas pour les Syriens depuis 2015.
Mmh. Oui,
bon, là, il y a indéniablement un effet collectif, mais un effet collectif, au fond, sur une histoire collective que l'on peut maîtriser.
Voilà. Oui, alors ce qui est très intéressant dans votre livre, Smaïl Lacher, c'est que vous opposez le rituel juridique et judiciaire de l'institution, que vous décrivez en détail, non seulement les actes, mais aussi les gestes des gens, enfin comment ils bougent, aux gestes et aux paroles de ces requérants, comme on les appelle, qui vont venir essayer de raconter leur histoire. Et là, on rentre dans une série de problèmes un peu labyrinthiques au fur et à mesure que ça se précise. C'est que à première vue, vous écrivez qu'à première vue, les locaux de la CNDA accueillent une foule indistincte de, entre guillemets, de demandeurs d'asile qui ont dû fuir leur pays où ils risquent la mort, tout ça entre guillemets. Et ce n'est qu'une fois entré en audience, aux yeux des juges, qu'aux yeux des juges, ils s'individualisent. C'est un moment délicat où leur histoire se singularise, mais reste prise dans les représentations collectives,
oui.
Celles des juges,
oui.
Celles des pays dont ils viennent. Enfin, ça devient un territoire très ambigu où va essayer de s'élaborer un récit. Et un récit, vous dites, un récit, ce n'est pas une histoire.
Oui. Alors, toute la difficulté va être précisément de singulariser. Le récit, de l'individualiser, de dire que l'on parle à la première personne du singulier, et qu'en fait il n'y a pas une masse de persécutés, que je ne représente pas une masse de persécutés, que je n'incarne pas une persécution collective, mais que j'ai été personnellement visé à cause de l'un des cinq motifs de l'article 1.2 de la Convention de Genève. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas arriver et dire « bon, il y a eu un tremblement de terre », les autorités sont absolument incompétentes pour faire face à cette catastrophe naturelle. Je n'ai plus de logement, je n'ai plus de travail, nous vivons dans la rue. Bon, ce n'est pas un motif inscrit dans l'article 1.2 de la Convention de Genève. Et donc, toute la difficulté pour le requérant est de parler à la première personne du singulier et donc, du même coup, de mettre à distance tout ce que les juges, mais comme les avocats, comme les journalistes, etc., ont incorporé comme stéréotype. Les Bangladesh, c'est telle et telle persécution. Les Syriens, c'est telle et telle persécution. Les Chinois, c'est telle et telle persécution, etc. Et c'est vraiment une gageure. Et le plus souvent, c'est-à-dire qu'il faut individualiser un récit, la tâche n'est pas terminée.
Oui.
Encore faut-il convaincre ceux qui vous écoutent.
Alors, le paradoxe, c'est que c'est des gens qui ont été arrachés à leur pays par la grande histoire, mais que pour l'expliquer, ils doivent faire jouer la petite histoire.
C'est impératif. Sauf, encore une fois, quand la grande histoire se mêle à la petite histoire, et c'est déjà arrivé. Et dans ce cas-là, il y a toujours, et les juristes sont de ce point de vue-là, extrêmement imaginatif, quand on peut pas attribuer le statut de réfugié conventionnel, eh bien, il y a toujours la protection subsidiaire, et dans la protection subsidiaire, il y a le A, B, le petit C, guerre civile, persécution personnelle, etc., ou personnellement visée pendant un conflit généralisé. Et alors là, on peut transporter le demandeur d'asile dans cette catégorie-là. Mais c'est vrai que parfois, pour les Syriens, par exemple, c'est absolument indéniable. Et même quand ils n'obtiennent pas le statut de réfugié conventionnel, ils peuvent l'obtenir, comme je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, à partir de la protection subsidiaire.
Alexis Nuss, vous dites de l'exil que c'est une expérience de la limite et une expérience limite en même temps.
C'est une expérience limite. Et là, justement, je parle de l'exil et non pas de la migration.
Oui, oui.
C'est-à-dire, je crois que si, je veux dire, c'est pas par amour des mots et c'est pas par pur nominalisme que je préfère parler d'exil, c'est pour m'aider justement à clarifier ce qui est en jeu. Et ce qui est en jeu, c'est la possibilité ou non de transformer cette expérience qui est celle des migrants en une expérience qui sera partageable.
Partageable, communicable.
Ouais. Communicable. C'est-à-dire passer cette limite, effectivement, de la communication, de la compréhension par l'autre. Et je crois que la différence, c'est que, bon, la migration, ça vient du lexique animalier. C'est les animaux qui migrent. Ce sont les oiseaux migrateurs, les poissons migrateurs, etc. Alors que dans l'exil, il y a la possibilité d'un projet. Et ce projet-là appartient à une expérience humaine. Mais cette expérience humaine, c'est effectivement l'expérience du passage à la limite. Pourquoi passage à la limite ? Parce que c'est sortir de toute territorialité.
Oui.
Sortir de toute territorialité, s'aventurer dans un non-lieu, dans quelque chose qui ne peut pas être connu à l'avance. Et je crois que la douleur, effectivement, la douleur, d'où la difficulté pour les migrants qui nous arrivent de raconter un récit, c'est d'une certaine manière dans quelle langue, je ne parle pas uniquement de la langue au niveau linguistique, mais dans quel code rhétorique. Ils viennent, même la notion d'expérience est une notion qui est une notion soumise à certaines normes de compréhension. Une expérience en Asie, une expérience en Afrique, là je fais vraiment des généralisations, en Occident, tout à fait,
une femme d'Anatolie analphabète,
absolument.
La notion d'expérience.
Et donc cette expérience-là, comment la communiquer si même la notion d'expérience n'est pas universelle? Et je crois que c'est cette difficulté-là, et ce passage à la limite, non seulement les arrivants sont des sujets humains qui passent des frontières, mais comme disait Georg Simmel, ce sont des êtres frontières qui, oui, en eux-mêmes, incarnent cette frontière-là, puisqu'ils viennent d'un ailleurs, ils sont ici, et cet ailleurs et cet ici, d'une certaine manière, se disputent leur conscience.
Oui. Dire des choses sur soi est une compétence très 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 inégalement distribuée. Contrairement à ce que l'on croit, dire des choses sur soi, ce n'est pas naturel, mais dire des choses sur soi devant on sait que ce sont des juges, mais on ne sait pas qui ils sont, on ne connaît pas leur identité, on ne sait pas quel est leur poids dans la formation de jugement, on ne sait pas qui est gentil, qui est méchant, qui sera plus attentif, qui sera relativement distrait, etc. Donc dire des choses sur soi, c'est quelque chose de tout à fait hypothétique, hein, très inégalement distribué, et c'est très très inégalement, alors de façon tout à fait flagrante, entre les hommes et les femmes, par exemple à la Commission des recours des réfugiés, ou aujourd'hui à la Cour nationale du droit d'asile.
Ouais.
France Culture, Signe des Temps, Marc Wetzmann.
Magana,
Ismaël Lacher, la notion d'exil, vous vouliez revenir dessus?
Oui, je pensais à un certain nombre de choses relativement précises à propos de la notion d'exil, et qui est directement en rapport avec une trentaine d'années d'enquête et de terrain dans des pays très très proches, comme l'Espagne par exemple, ou l'Italie, un tout petit peu moins proches, comme les pays du Maghreb, encore un peu moins proche comme les pays du Moyen-Orient et les pays d'Asie du Sud-Est. Et c'est au fil des enquêtes, c'est-à-dire au fil des ans que je me suis aperçu que la condition d'exilé, qui est d'abord une condition d'exilé à soi-même, la première expérience de l'exil, de l'étrangeté à soi-même, la première expérience de la condition ontologique d'étranger, c'est d'abord dans son pays qu'on la vit. C'est d'abord chez soi que l'on s'aperçoit que l'on compte pour si peu ou que l'on compte pas du tout, et que même on peut être rayé de la carte et rayé de la communauté nationale. Et donc c'est la première expérience que l'on fait, bien avant probablement l'expérience de l'étranger dans le pays d'accueil. Bon. Et il y a aussi un autre point qui me paraît extrêmement important et qui participe à la fragmentation de l'unité biographique, c'est-à-dire de faire de soi-même un propre exilé, de ne plus se reconnaître ou de ne plus s'y reconnaître, c'est l'absence de foyer. Et le foyer, c'est quand même le centre du monde. Et c'est de là que part à la fois la chaleur et la lumière. Mais c'est surtout là qu'on revient une fois qu'on est parti. Et plus de foyer, c'est la vie qui se fragmente. C'est la vie qui n'a plus de lieu, qui n'a plus de territoire. Et combien de fois ai-je entendu que sans maison, sans demeure, sans être à demeure, c'est-à-dire sans savoir qui on est, eh bien, on peut devenir tout simplement fou.
Cette étrangeté à soi dans le pays où on est, avant de partir même, on pense à Kafka, je pense, non?
Oui, on pense à Kafka. Ce qui me revenait à l'esprit, c'est une remarque de Walter Benjamin, le philosophe allemand, qui, à propos de Brecht, qui lui aussi parti en exil, dit « Mais Brecht, en tant que communiste, était déjà en exil dans l'Allemagne, qui était la sienne. » Et bien sûr, il y a cette... Alors, ce que je voudrais tout de même préciser, c'est que si je m'intéresse à l'exil, c'est à l'intérieur du cadre occidental. C'est-à-dire que la notion d'exil, telle que l'Occident l'a pensée, ne me semble pas universelle. La notion de territorialité, c'est-à-dire d'une appartenance qui viendrait justement d'un chez-soi, c'est une notion très très occidentale. Et là, je voudrais donner un témoignage dans ma région, le PACA, je travaille à l'accueil des migrants. Beaucoup de migrants qui viennent d'Afrique, par exemple, ne m'entendent pas quand je leur parle de perte de territoire, perte de chez-soi, etc. Ce sont des exilés qui avaient intégré déjà en Afrique cet exil et qui passait les frontières des pays africains sans trop faire de différence. Cette notion territoriale, passer les frontières, perdre un pays, en acquérir un autre, etc., me semble être un héritage de cette Europe westphalienne où l'identité nationale, elle est liée à des territoires. Et je ne crois pas que les arrivants, ceux qui nous arrivent, celles qui nous arrivent aujourd'hui, participent de cette même logique. Je donnerai un exemple, cette fois-ci, très, très lexical. Le mot d'exil lui-même, quand je suis en face de locuteurs arabophones, il y a tout de suite une connotation religieuse. Et qui me disent, alors moi, voilà, exactement. Et donc, moi, je suis pas, non, c'est pas du tout mon cas, etc. Je dis, non, mais je parle pas de ça, je sais très bien. Non. Donc, là, il y a tout d'un coup une impossibilité. Et or, cet exil qui, pour moi, est si nécessaire comme concept pour justement redonner une subjectivité, redonner une individualité aux migrants, je suis parfois dépourvu parce que je ne peux pas l'appliquer. Si je parlais de la littérature occidentale, c'est que depuis l'Ulysse d'Homère jusqu'à l'Ulysse de Joyce, depuis la métamorphose d'Ovide jusqu'à la métamorphose de Kafka, la littérature réfléchit sur la possibilité d'un sujet humain par rapport à l'appartenance ou non à un chez-soi. Et puis vient la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et tout d'un coup, je crois qu'il y a une espèce de lacune. On n'arrive même plus à penser, la littérature n'arrive même plus à penser ces questions de territoire.
Je pondère quand même, il me semble que ce qu'on appelle la littérature concentrationnaire de Primo Levi ou dissident, c'est quand même de la littérature de l'exil, mais, ou du déplacement, sinon de l'exil.
Alors là, ce qui est, voilà, du déplacement,
Parce
que le problème, c'est que du camp de concentration, on ne revient jamais.
Oui, oui.
Et donc, en ce sens-là, si l'exil, malgré tout, dans le modèle homérique, présuppose la possibilité de revenir, dans le cas de la littérature concentrationnaire, on n'en revient pas. Kertész est tout à fait... Bon. Et je crois que c'est cette nouvelle réalité du XXe siècle que le migrant d'aujourd'hui nous apporte. Ne plus penser notre identité en fonction d'un territoire. Et ça, c'est inédit. Ça, c'est inédit pour l'éthos européen contemporain.
Oui. Alors, moi, j'apporterai juste un tout petit bémol. Je suis d'accord avec vous pour dire que la problématique que vous évoquez est bien réelle, tout à fait tangible pour un certain nombre d'auteurs, par exemple en sciences sociales, mais même pour un certain nombre de migrants qui ne sont pas des migrants tout à fait comme les autres, qui sont des migrants qui tentent de penser politiquement leurs conditions ontologiques. Je voudrais simplement rappeler que après la Seconde Guerre mondiale, nous sommes à environ 40 ou 45 États. Et aujourd'hui, nous sommes quand même à plus de 193 États.
Ouais.
Ça veut dire que ce ne sont pas simplement des États, au sens où ce sont des dispositifs qui détiennent le monopole de la violence légitime. C'est pas simplement ça. C'est aussi des territoires. C'est aussi des identités qui sont très très liées au territoire. Vous n'avez qu'à penser aux Kurdes. Vous pensez simplement aux Palestiniens. Ce sont des frontières, c'est-à-dire des modalités juridiquement entérinées d'inclusion et d'exclusion, et qui ne va pas sans puissance, sans effet tangible dans la constitution des identités dites nationales, même si ça reste bien évidemment tout à fait problématique. Et surtout, là il suffit de lire les géographes et les historiens pour prendre conscience et connaissance de la frénésie des uns et des autres à construire des barrières, à construire des murs, etc. Et bien évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire, la construction d'un mur, la construction d'une barrière ou d'une nouvelle frontière ne va pas sans la constitution d'une souveraineté, donc d'une protection sur des populations, etc.
Oui, oui. Je voudrais revenir sur cette histoire de, vous avez abordé tout à l'heure, c'est l'histoire de récit et de folie et de tout ça. Parce que vous dites à un moment donné que les requérants, enfin, cette étrangeté à soi, qui n'est pas seulement un exil à soi, qui n'est pas seulement un exil territorial. Vous citez les requérants dont l'un dit « j'ai même peur de moi parce que je ne me reconnais plus ». Et vous citez les récits, les exemples de personnages que vous appelez, je ne sais pas si c'est leur vrai nom, Sue et Pierre, que vous avez rencontrés en Angleterre, je crois.
Oui, absolument.
Et qui basculent l'une dans la prostitution, oui. L'autre dans la folie.
Oui.
Mais non pas nécessairement pour des raisons matérielles, mais parce qu'il y a une sorte de pulsion, d'autodestruction, de s'abîmer pour ne plus faire l'effort de s'appartenir,
oui, absolument.
Vous dites. Et vous avez des pages sur l'exil comme haine de soi et haine de son pays.
Oui. Enfin, je me suis toujours interdit de théoriser a priori.
Oui.
C'est pour moi un impératif épistémologique. Au fond, j'ai appris l'essentiel, même d'un point de vue théorique, à partir du terrain que j'ai constitué, qui s'est constitué parfois indépendamment de ma volonté pendant environ une trentaine d'années. Et donc, ce que je dis là est en réalité le résultat, me semble-t-il, théorisé, mais a posteriori, d'une accumulation d'un certain nombre de situations, d'observations, d'analyses de configurations, etc. Il y a une chose dont je me suis aperçu en une trentaine d'années, une constante, un véritable invariant anthropologique, c'est que ceux qui étaient en exil ne pensaient qu'à une seule chose, c'était au pays d'origine, c'était au foyer, c'était au sol. Donc, sans sol, il n'y a pas de possibilité de stabiliser une identité. Et je pense que l'exil est quelque chose qui peut parfaitement se transmettre de génération en génération.
Ah oui,
bon. Ça oui. Va. Et on le voit, pas simplement chez ceux qui partent parce qu'ils sont dans l'obligation de partir, bon, et qui se retrouvent dans un pays d'accueil et qui tentent tout à fait hypothétiquement de refaire leur vie, en tout cas c'est cuit, et vraiment cuit, au moins pour la première génération, on peut parfaitement le voir dans l'immigration. Je pense en particulier à toutes les enquêtes que j'ai faites dans les familles immigrées à propos de la scolarisation et à propos de la mémoire. C'est-à-dire le nombre de familles où il y a une véritable volonté quasi pédagogique de transmettre quelque chose de sa propre histoire, c'est extrêmement rare. Mmh. Même parmi les enfants que j'ai interviewés et qui avaient fait l'enseignement supérieur, hein, qui avaient 2 ans, 3 ans d'enseignement supérieur. Est-ce que on parle de l'histoire de l'immigration chez
toi? Vous parlez de la France.
Oui, absolument, absolument. Mais, tout à fait, je parle de la France.
Ouais. Parce qu'effectivement, je crois qu'il y a, un problème, du moins, il y a une tension dans la culture française qui est liée à cette non-reconnaissance de la possibilité de considérer l'expérience exilique comme une expérience humaine à part entière, qui peut être transmissible, qui peut être source de richesse, qui peut être source d'enseignement. Le fait qu'il ait fallu attendre si longtemps pour qu'il y ait un musée consacré à l'immigration en France, alors que les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, ça faisait très très longtemps qu'il y avait déjà des institutions muséales qui accueillaient cette mémoire-là, est très très révélatrice du fait que le grand récit national français se construit sans prendre en compte l'exil, que ce soit d'ailleurs un exil intérieur au territoire français, ou bien l'exil de ceux qui sont venus d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que même dans ce qu'on appelle le colonialisme, l'expérience exilique n'est pas prise en compte. C'est-à-dire d'une certaine manière, les colonies, c'était des extensions de la France, alors que la réalité, c'est que les colons étaient des exilés. Si on interroge Camus dans cette optique-là, on comprend bien que Camus est celui qui, effectivement, est déchiré parce que il est exilé et que l'exil est d'abord cette conscience critique de la possibilité de devoir partager un sol, de devoir partager une mémoire, de devoir partager une langue. Or, le récit national français se construit sans prendre en compte cette dimension-là. Et je crois qu'une des difficultés actuelles de la France à accueillir dignement les migrants est lié à ça, est lié à cette absence de représentation. La figure du migrant n'existe pas dans l'imaginaire.
Enfin, ça reste, c'est un autre sujet, mais ça reste à voir, parce que l'Angleterre, comme vous dites, le récit est beaucoup plus vivant. Ils ont au moins autant de problèmes qu'en France.
Mais pour d'autres raisons.
Bah oui, donc l'existence du récit n'implique pas la résolution des problèmes. Hein. C'est pas de manière mécanique, quand même.
Tout à fait. Mais par exemple, si on prend l'exemple américain, où justement la revendication de ce que j'appelle dans mon bouquin le post-exil, c'est-à-dire je suis né quelque part, je parle la langue de ce pays-là, et pourtant j'ai la nostalgie d'un pays que je n'ai jamais connu, j'ai la nostalgie d'une langue que je n'ai jamais parlée. Qu'on soit italien, irlandais, grec, etc., les États-Unis le reconnaissent. On ne va pas s'aventurer sur l'actualité présidentielle, mais bon, les reconnaissent. La France, non. On est dans une espèce de territoire qui, une fois que l'identité est donnée par ce territoire, l'identité n'a pas à être interrogée. Or, je crois que ce qui vient creuser, et ce qui fait justement l'intérêt de la littérature, c'est justement que les écrivains sont ceux qui, par de ça, une identité donnée, se cherche une autre identité. Mmh. Une identité fantasmée, ou une identité plus ou moins fantasmée, mais s'aventurer dans la possibilité de retrouver quelque chose de l'ordre du fantôme, du spectre, de quelque chose qui vient hanter.
Oui, vous avez raison. Au fond, il y a l'exil de l'homme sans qualité, il y a l'exil de celui qui ne compte plus pour personne, et en particulier qui ne compte plus pour les institutions qui l'ont fait grandir dans son pays d'origine. Et puis il y a l'exil, qui est quand même d'une autre nature, à mon avis, des auteurs, de grands auteurs. Alors, je voudrais dire que, précisément, ce qui intervient pour les grands auteurs, c'est cette chose que nous connaissons bien, vous et moi, et Marc Wiesmann aussi d'ailleurs, c'est l'écriture. C'est l'écriture, et cette écriture permet précisément ce qui est absolument impossible à l'exilé ordinaire, c'est de se trouver.
Oui, j'allais bon. Le dire. C'est, il y a quelque chose dans le problème du, enfin, l'exilé de base, enfin, l'exilé ordinaire, est exilé à son histoire aussi. C'est-à-dire qu'il ne peut pas transmettre une histoire qui est la sienne sans être la sienne,
absolument.
D'après ce que j'ai compris.
Non, vous avez tout à fait raison.
Parce que c'est quelque chose qui lui arrive, qui n'est pas lui.
C'est très, très important. C'est très important. Enfin, merci de me tendre la perche. Non, c'est l'exil des auteurs, c'est l'exil des grands auteurs en particulier, c'est un exil où il est possible de s'isoler pour écrire, pour penser, pour se retrouver. Je me souviens du tic-tac des machines des grands auteurs américains en France, bon, des exilés. Alors, en revanche, l'exilé ordinaire n'a pas l'écriture pour se retrouver. Il a le récit qu'il peut faire valoir, c'est-à-dire plus exactement son histoire qu'il peut faire valoir, et vous savez très bien que dans le domaine de la demande d'asile, l'histoire ou le récit devant les institutions n'est absolument pas un acte singulier. C'est toujours un acte collectif. Oui, au fond, il est même dépossédé encore dans le pays d'accueil, de sa propre histoire, puisqu'on lui fabrique une histoire qui n'est pas la sienne.
On lui fabrique un récit qui n'est pas la sienne.
Absolument.
Et souvent donné par les passeurs.
Absolument. Ou, voilà. Et il arrive, je l'ai vu de mes propres yeux, vu en tant que juge, le requérant s'étonner à la lecture du rapporteur, s'étonner d'une histoire qui n'a jamais été la sienne. Alors l'avocat ne disait rien. Bon, on peut imaginer pourquoi il disait rien. Mais le requérant ne comprenait pas qui était ce personnage qui était présenté aux trois juges et qui devait faire l'objet d'une conversation entre le requérant et les trois juges. C'est un acte absolument collectif. Et l'histoire singulière n'est plus une histoire singulière dès le premier pas en dehors de la frontière, de la première frontière internationale.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a on va bientôt devoir clore l'émission, mais on aboutit finalement, l'espèce de modus vivendi auquel on arrive à la CNDA, c'est des histoires qui sont à moitié vraies, à moitié fausses, qui sont plus ou moins cohérentes, c'est-à-dire qu'il faut essayer de se convaincre d'un récit qui est plus ou moins cohérent, oui. Et donc quelquefois même les preuves sont paradoxalement des éléments à charge, c'est-à-dire que pour les juges, plus le dossier est cohérent, plus il est douteux, d'une certaine manière.
Oui.
Il ne faut pas
oui.
être trop cohérent. Enfin,
alors, quand il n'est pas cohérent, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand il est trop cohérent, c'est que là aussi, quelque chose ne va pas. Et ça devient ouais. suspect. Cette cohérence est à l'évidence une cohérence fabriquée.
Mais c'est pour ça qu'on a besoin de la littérature. C'est-à-dire que ce mi-vrai, mi-faux, la littérature nous a oui. appris... Oui. à lui accorder une part de vérité.
Oui.
Vous dites
oui,
que effectivement les grands auteurs, bon, il faudrait faire la différence entre les Américains,
oui, bien
etc.
Sûr. Non,
et
bien
je rappelle
sûr.
Que Nazim Hikmet a écrit un recueil extraordinaire qui s'appelle « C'est un dur métier que l'exil ». Mais nous les avons lus. C'est-à-dire qu'au nom de cette littérature-là, nous pouvons accueillir le migrant. Je peux pas dire que Victor Hugo soit un migrant, ce serait incongru de dire ça, je peux dire que c'était un exilé. Et si je dis tour de passe-passe lexical, si je dis que l'Érythréen ou celui qui vient de Syrie est un exilé, je peux lui l'accueillir au nom de Victor Hugo. Et c'est parce que la littérature nous apprend ces expériences limites, comme tout à l'heure vous avez eu la gentillesse de rappeler cette expression, cette expérience limite, que nous pouvons comprendre et accueillir celui qui arrive.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et cela ne va pas sans difficulté. Et aujourd'hui encore certainement plus qu'hier.
Signe des temps, une émission de Marc Betzman, assisté de Nathalie Dempereur, avec à la technique Alice Sayed et à la réalisation Véronique Villa. Dans un instant, une histoire particulière.
Said this heart